Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde la cuisine comme fait culturel majeur. Les Bonnes Choses, c'est 30 minutes tout compris avec un plat du jour, une madeleine, une cerise sur le gâteau présenté aujourd'hui par Camille Labro. Bonjour Camille.
Bonjour Caroline.
De retour de voyage, si j'ai bien compris.
Absolument, de très loin.
De très très loin, vous nous en parlerez tout à l'heure à 12h25. Bonjour Matteo Caranta.
Bonjour Caroline.
Qui donc nous raconte sa madeleine aujourd'hui ?
Eh bien la madeleine de la comédienne Ludivine Sagnier qui est à l'affiche de La Vérité, le dernier film du japonais Hirokazu Koreeda.
À tout à l'heure, 12h15. Et en ce dernier dimanche de l'année, période traditionnellement propice à la fête et au gueuleton qui l'accompagne, zoom sur l'une des icônes les plus célèbres et les plus festives de notre gastronomie, un vin tout particulier, synonyme des grandes occasions, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2015. Je veux parler du champagne. Historiquement réservé aux classes aristocratiques, le champagne s'est aujourd'hui démocratisé au point que selon une enquête de 2016 menée par les vignerons champenois, plus de 80% des Français déclarent en boire le 31 décembre. Comment et pourquoi le champagne est-il devenu la boisson de fête par excellence ? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui.
Je viens de la noce à ma sœur Annette, et comme le champagne y pleuvait, je ne vous le cache pas, je suis pompette, et j'ai pincé mon petit plumet. Je sens flageoler mes guibolles, j'ai le cœur guilleré, l'air folichon. Je suis prête à faire des cabrioles quand j'ai bu du moite chandon.
Alors l'idée n'est évidemment pas de sombrer dans l'ivresse comme le chante Véronique Foucault-Hélène dans cette reprise d'Yvette Guilbert, une chanson du tout début du siècle, puisque comme vous le savez, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et donc à comment consommer avec modération. Ceci dit, nous pouvons parler de l'histoire du champagne et de la fête aujourd'hui grâce au champagne en compagnie de nos deux invités. Un historien, bonjour Yves Tesson.
Bonjour.
Vous avez fait une thèse sur l'histoire des politiques sociales d'une grande maison de champagne, à savoir la veuve Clicquot-Ponsardin.
Tout à fait.
Cela. Vous êtes consultant pour les professionnels de Champagne, membre de l'Institut Georges Chappaz de la vigne et du vin en Champagne à l'Université de Reims, capitale du Champagne. On va nécessairement y revenir puisque c'est le lieu de naissance et sans doute encore le lieu de vie du Champagne aujourd'hui, Reims. Et puis avec nous, une vigneronne. Bonjour Delphine Brulèze.
Bonjour.
Vous êtes vigneronne donc, mais vous êtes aussi œnologue. Vous produisez du champagne sous le nom de Louise Brison. Louise Brison étant le nom de votre arrière-grand-mère. Vous nous raconterez en quoi c'est une maison familiale. Et vous êtes membre de l'association Les Fabuleuses. Qu'est-ce que c'est que cette association ?
Alors, Les Fabuleuses de Champagne, on est effectivement une association de 7 femmes viticultrices, vigneronnes, pour faire parler des femmes en Champagne, ça c'est un fait, mais également se regrouper pour faire des salons et des présentations, que ce soit en France ou à l'international.
Et on le verra tout à l'heure, sans doute après la Madeleine, en quoi, justement aujourd'hui, l'Union peut faire la force, notamment avec votre association Delphine Brulèze. Peut-être qu'on va remonter dans le temps, très 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 loin, avec vous l'historien Yves Tesson, pour se demander d'où vient le champagne. Mais avant de remonter dans le temps, je voudrais quand même vous demander à tous les deux si le champagne est effectivement, comme on l'entend beaucoup, un vin ou un dérivé du vin. Je me retourne encore vers Delphine Brulèze.
D'un point de vue œnologique, c'est purement un vin.
C'est un vrai vin. C'est un grand vin, même, on dit.
C'est un vrai vin, parce que depuis Pasteur, on a décrypté tous les secrets de la fermentation alcoolique. On a surtout pu les maîtriser. Et donc, c'est vraiment une transformation de raisin en alcool. Et donc, c'est un vrai vin.
Est-ce qu'il a toujours fait des bulles, le champagne, Tesson ?
Eh ben non, il n'a pas toujours fait des bulles. Et justement, le champagne, avant d'être un grand vin effervescent, a été un grand vin tout court qui bataillait avec les vins de Bourgogne au XVIIe siècle. Et vous savez qu'il y avait une célèbre querelle à la cour hein, entre les médecins du roi pour savoir s'il fallait prescrire pour le guérir de ses différentes affections, s'il fallait prescrire du vin de Bourgogne ou du vin de champagne. Et finalement, on a prescrit au roi du vin de Bourgogne, mais le roi a dit qu'il le faisait uniquement pour sa santé et qu'il préférait quand même les vins de champagne pour le goût.
Qu'est-ce qu'il avait de particulier, le vin de champagne, avant d'être un vin à bulles alors ?
Alors, c'était un vin qu'on disait clairet. Et en fait, le problème en fait des vins de champagne, c'est qu'on manquait un peu de soleil dans la région. Et donc, au XVIIe siècle, on a une mode qui est de plus en plus vers des vins plus colorés. Et donc, on a ce problème-là, on n'a pas assez de soleil et on a un vin qui est rouge mais un peu clair, qui tire un peu sur le rosé. Et donc, ça a été des vins qui ont été assez appréciés, beaucoup dans les Flandres d'ailleurs. Finalement, au XVIIe siècle, il y a une grande innovation qui apparaît en Champagne, qui est beaucoup plus d'ailleurs une innovation champenoise que l'effervescence, qui est celle de la capacité à produire du vin blanc à partir de raisins noirs, c'est grâce à un pressurage délicat. Et donc ça a permis de démarquer définitivement les vins de Champagne des vins de Bourgogne, et à partir de là aussi de commencer à monter vraiment en gamme.
L'effervescence, elle date de quand, vous le savez, Delphine Brûlé et...
Alors, elle était un peu fortuite au début parce que, comme on maîtrisait pas grand-chose, les vins étaient souvent, alors au début laissés en fût, et puis au printemps les fermentations repartaient parce qu'il faisait plus chaud, les levures étaient présentes et elle recommençait à consommer du sucre et donc à produire du gaz carbonique. C'est comme ça qu'est née l'effervescence. Et puis on a réussi à mettre le vin en bouteille et le phénomène se reproduisait. Donc on a commencé à voir vraiment la bulle apparaître et puis petit à petit, après les rois, puis Napoléon, etc., on a commencé à vraiment effectivement différencier le champagne en tant que vin de luxe, vin de fête, vin des moments très 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 privilégiés d'une certaine classe de la population.
Alors la mise en bouteille est un moment important, Yves Tesson, mais peut-être qu'avant la mise en bouteille, il faut revenir à l'acte de naissance, ou plutôt la découverte hein, de ces vins de champagne par les Anglais, donc.
Alors justement, cette question de l'effervescence, les premiers vins de champagne effervescents sont apparus en Angleterre. Et donc, c'est ça qui est très amusant, c'est qu'en Angleterre, au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, eh bien, le roi d'Angleterre veut développer sa puissance navale. Il interdit l'utilisation du bois ou verrier. Ils utilisent du charbon. Ils obtiennent un verre beaucoup plus résistant. Le même phénomène qui se produisait un peu par hasard dans les tonneaux se produit désormais dans les bouteilles, parce que les marchands londoniens prennent l'habitude, pour mieux conserver le vin, de le tirer en bouteille. Et l'effervescence apparaît à ce moment-là. Et il y a une aristocratie anglaise en 1760, un peu marginalisée du pouvoir, qui cherche à se démarquer, à choquer, et qui va apprécier cette effervescence, qui va demander à ce qu'on la cultive. Et c'est à ce moment-là, justement, que se développe cette mode un peu choquante du champagne effervescent. On parlait de brisque de champagne. Et ce qui est amusant aussi, c'est que cette mode va beaucoup choquer les champenois et les Français. Saint-Évremond voit ça comme une façon de gâcher les bons vins de champagne. Bertin du Rocheret, un négociant sparnassien, dit « Mais si vous voulez faire ça, quand il y avait des clients qui lui ont demandé, si vous voulez faire ça, faites ça avec des petits crus, pas avec les trop bons vins de champagne, ce serait dommage. » Et donc on voit que évidemment tout ça a évolué.
Est-ce que c'est vrai que les premiers à faire du vin de champagne ici, hein, sur nos terres, c'était les bénédictins, et en particulier le premier d'entre eux, le moine Dom Pérignon?
On n'a absolument aucune preuve que Dom Pérignon...
Ça fait partie des mythes, il y a beaucoup de mythes autour du champagne.
Dom Pérignon, c'est un père spirituel de la Champagne, mais pour d'autres raisons. Ça a été un des premiers probablement à faire des assemblages raisonnés. C'est-à-dire, il assemblait les raisins sur le pressoir, il les goûtait avant, et du coup, il réfléchissait. Parce que ça, c'est un autre marqueur de l'ADN du champagne, c'est la question de l'assemblage. Vous voyez, le but d'une marque de champagne, c'est de produire en fait toujours la même qualité. En fait, c'est l'idée même de standardisation du goût. Être capable, justement, que le client, quand il achète une bouteille de champagne de sa marque, eh bien, il retrouve chaque année le même goût. Du coup, on assemble, alors à l'époque du Dom Pérignon, seulement différents crus, mais à partir du 19e siècle, même différentes années, hein, c'est le brut sans année. Et donc, le rôle du chef de cave, c'est de conserver le style familial d'une année sur l'autre et d'avoir cette constance.
Vous confirmez, Delphine Brûlé?
Oui, tout à fait. Alors, j'émettrai quand même un bémol parce que il n'y a pas que cette famille de grandes marques. Hein. On est aussi beaucoup de petites marques de récoltants, ce qu'on appelle récoltants manipulants, c'est-à-dire des propriétaires de vignes qui transformons nos propres raisins pour en faire nos propres vins. Et là, on a peut-être, on va dire, un ADN un petit peu différent, dans le sens où on ne bénéficie pas, comme ces grandes marques, qui sont principalement des négociants, d'un achalandage de raisins qui vient de toute la Champagne. Nous, on a une histoire qui est singulière, dans un lieu bien particulier, et notre travail à nous, c'est plutôt, en fait, de rester fidèle à nos terroirs et à les traduire le plus fidèlement possible dans notre bouteille. Donc, pour certains, ça participe à ce goût maison, hein, qui reproduisent, mais pour beaucoup aujourd'hui, notamment une nouvelle vague de jeunes producteurs, on s'attache à ne plus vraiment, on ne s'intéresse plus vraiment à ce goût répétitif année après année qui fait l'image de la maison, mais plutôt à une image de terroir qui là doit s'exprimer parfaitement en suivant les années, puisque le terroir ce n'est pas uniquement que le sol, c'est également le climat. Et tout à chacun, on voit bien que les années se suivent et ne se ressemblent plus du tout.
Yves Tesson, il y a un goût maison, il y a une image du terroir, mais il y a aussi une image donc de luxe et de fête, attachée irrémédiablement au champagne. À partir de quand et comment c'est devenu la boisson de référence par excellence de fête et de luxe?
Alors le principe, de pourquoi c'est un produit de luxe? Parce que c'était extrêmement coûteux à produire. Il faut s'imaginer qu'au début, en fait, on était incapable de dompter la mousse. C'est-à-dire que toute la question, c'était de savoir, par exemple, combien de sucre il fallait rajouter au tirage pour avoir une seconde fermentation optimale, le sucre qui va être mangé par la levure. Et donc, si on en rajoutait trop, eh bien, la bouteille explosait. Si on n'en mettait pas assez, eh bien, on avait un vin qui était complètement tranquille. Et donc, on pouvait perdre tout son stock comme ça. Donc forcément, le coût de production, il était extrêmement élevé. Et donc, tout se faisait à la dégustation. Il faut attendre Jean-Baptiste François, un pharmacien de Châlons-en-Champagne, qui met au point une méthode, grâce au densimètre, pour mesurer la quantité résiduelle qu'il y a dans le vin de sucre. Voilà. Et donc, une fois qu'on sait quelle quantité de sucre ajouter, qu'on sait déjà mesurer ce qu'il y a déjà comme sucre dans le vin, eh bien, on est capable de maîtriser la seconde fermentation. Et ça, à ce moment-là, d'ailleurs, que le champagne va connaître une première démocratisation, donc après les années 1830, dans les années 1840, et où il va passer de l'aristocratie à la bourgeoisie. Mais sinon, au départ, c'est un produit exclusivement d'exportation, quasiment. Il a conquis, en fait, d'ailleurs, le marché intérieur, beaucoup avec les vignerons récoltant manipulants au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'ils avaient un réseau plus proche, plus familial, etc. Et donc, au départ, à la fin du 19e siècle, on était encore à 80% d'exportation. Aujourd'hui, on est autour de 50% d'exportation. Donc, ça a beaucoup changé.
On parlait des mythes tout à l'heure. Je disais qu'il y en a beaucoup qui tournent autour du champagne. Un autre mythe veut que ce soit du fait du baptême de Clovis à Reims, qui a lancé les couronnements dans la ville de la Champagne, que justement le champagne est devenu la boisson de fête et surtout le vin des rois de siècle en siècle.
Alors ça a certainement beaucoup contribué. Alors vous savez que Saint-Rémy, qui baptise Clovis, est lui-même propriétaire de vignes et c'est les premières traces de vignes en Champagne qu'on ait écrites dans son testament. Avant, on n'en a pas vraiment. Même s'il y avait des vignes depuis l'époque romaine. Et donc, effectivement, les sacres ont joué un rôle parce qu'il y avait des banquets qui avaient lieu à Reims, où toute l'aristocratie venait, et où, évidemment, on a servi les vins de champagne. Et je crois que le premier sacre où on est sûr qu'il y a eu du vin de champagne effervescent, c'est celui de Louis XV.
Et vous disiez tout à l'heure, Yves Tesson, que la première démocratisation date des années 1840. Mmh. En 1889, la marque Mercier met le champagne dans la rue. Et un siècle plus tard, on peut vraiment dire que le champagne s'est démocratisé au point de devenir un produit de luxe. Quoique, en préparant cette émission, j'ai lu une phrase de la sociologue Monique Pinson-Charlot qui dit ceci. La plupart des Français le réservent à des occasions exceptionnelles, mais dans les cercles riches, le champagne est le quotidien. Delphine Brûlé, vous qui vendez à différentes personnes, vous diriez quoi?
Moi, je bois du champagne presque tous les jours.
Oh là là, vous faites partie d'une
mais
catégorie
c'est une,
à part.
Peut-être une
alors.
Déformation professionnelle. Mais on peut dire effectivement quand même que dans les cercles proches de la Champagne, on boit du champagne vraiment très géographique. On boit du champagne très régulièrement. Et puis après, plus on s'éloigne de la Champagne, moins c'est vrai. Le champagne est plutôt encore réservé à des fêtes de mariage, des événements particuliers, le dimanche, etc.
Et le 31 décembre.
Et le 31
N'est-ce
décembre.
N'est-ce pas, Yves Tesson ? On va écouter la Madeleine dans un instant, puisque c'est les bonnes choses sur France Culture.
Alors, à votre santé, les gars.
83 millions de bouteilles, et moi, et moi, et moi.
Et toi, Jean-Paul, tu tournes et tu dis rien du tout.
Déjà pas mal.
Matteo Caranta, quelle Madeleine aujourd'hui donc?
Bien, je vous le disais, j'ai rencontré Ludivine Sagné qui apparaît dans La Vérité de Kore-eda. La Vérité, c'est le titre d'un livre dans le film qui cristallise la relation entre une grande actrice en fin de carrière qui a plutôt un faible pour le whisky, jouée par Catherine Deneuve, et sa fille, une scénariste jouée par Juliette Binoche. Mais La Vérité de Ludivine Sagné, elle, serait plutôt à chercher du côté du Poitou, et sa Madeleine se mange par six.
Ma Madeleine, ce sont les escargots à l'ail que nous faisait ma grande-tante Léonie, qu'on appelait Nini. Elle habitait dans le Poitou. Elle était tellement vieille qu'elle roulait les airs. Et en fait, quand elle savait qu'on venait, elle élevait des escargots. Pendant plusieurs semaines, elle les nourrissait avec la meilleure salade. Et en fait, quand on arrivait, on déposait les bagages et on allait voir les escargots qu'elle avait engrossés pour nous. Elle faisait revenir l'ail, elle faisait une sauce à lui. Il y avait beaucoup d'huile. Et puis ce qu'on aimait bien, c'était beurrer, en fait, c'était tremper le pain dans l'huile qui restait. Ça, c'était bon, une fois que l'escargot était... C'était presque un petit effort, en fait, parce que la consistance de l'escargot, pour une petite fille, elle est quand même un peu particulière, un peu inquiétante. Et en fait, je faisais cet effort-là, parce qu'après, il y avait la récompense de la mie de pain trempée dans l'ail beurré. J'ai le souvenir que c'était vraiment consistant, que la chair, elle était dense... Et puis il y avait un ressort quand on tirait l'escargot, qu'on arrivait à le crocheter comme ça, on le tirait, puis il y avait la queue comme un petit bigorneau qui était projeté, qui remontait très vite. Et voilà, c'était comme une grosse limace, mais tellement savoureuse que la consistance, bien que un peu décourageante, ça passait. Souvenir de mes pieds sur le carrelage, les escaliers qui craquaient, la bonne odeur de savon dans la salle de bain. Je me souviens de l'odeur de l'ail dans la cuisine, de la précaution que ma grande-tante prenait pour les pics à escargots. Il fallait pas qu'on se blesse avec, ça lui faisait peur. Pendant que les escargots cuisaient, je me souviens que je jouais avec son métier à tisser en sentant l'ail crépiter. Et donc on avait ce plaisir-là qui, bizarrement, en fait, ne m'a pas donné envie de manger des escargots à l'ail toute ma vie, mais plutôt au contraire de conserver une idée de la perfection de ces escargots, parce que j'ai toujours été déçue ensuite. Donc plus jamais je mangerai d'escargots.
Voilà la Madeleine de Ludivine Sagné. Merci beaucoup Matteo Caranta. On parle du champagne. Je ne sais pas trop si le champagne et l'escargot font bon ménage. Je vais me tourner vers vous, Delphine Brûlé, puisque vous faites des champagnes Louise Brison uniquement millésimés. Alors millésimés, ça veut dire que les vins sont élaborés uniquement avec des raisins provenant de la même année de récolte. Je lis mon papier, hein, comme ça je suis précise. Est-ce que et qu'en plus millésimés, ça veut dire qu'ils se prêtent particulièrement à la gastronomie. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a des plats, comme les escargots, par exemple, qui vont bien aller avec le champagne que vous vendez, et d'autres pas du tout?
Oui, alors, chaque millésime a ses caractéristiques, et ces caractéristiques vont évoluer dans le vieillissement du champagne. Donc, ce qui est vrai à un moment ne le sera plus après. Donc, notre travail, c'est de les goûter régulièrement pour savoir avec quoi on va pouvoir les associer, au même titre qu'un vin, un vrai vin de gastronomie. Donc, si on veut bien parler des escargots, l'ail, c'est quand même très, très compliqué à agrémenter, en tout cas avec un vin. Mais des champagnes qui ont une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, sur des millésimes un peu solaires, avec des champagnes assez racées, qui ont de la consistance et de la complexité, pourront accompagner éventuellement des escargots. Oui.
Est-ce qu'on sait, Yves Tesson, avec quoi les rois mangeaient, fêtaient, buvaient le champagne? Qu'est-ce qu'ils mangeaient avec, on le sait?
Alors, ça, ce qui est très intéressant, c'est l'évolution du champagne. C'est-à-dire que au XIXe siècle, le champagne n'avait rien à voir avec le champagne d'aujourd'hui. Il faut s'imaginer des champagnes où on avait des liqueurs de dosage, donc c'est la deuxième liqueur, celle qu'on ajoute juste à la fin pour faire du demi-sec, du brut, etc. Les liqueurs de dosage pouvaient représenter jusqu'à un tiers de la bouteille. Et on avait des champagnes qu'on expédiait en Russie qui pouvaient contenir jusqu'à 300 grammes de sucre par litre. Donc un vrai sirop. Donc évidemment, ça venait amuser le dessert. On le buvait frappé glacée. Et ce qui est amusant aussi dans ces champagnes, c'est que dans cette liqueur de dosage, on pouvait trouver du kirsch, on pouvait trouver plein de choses, du cognac, de l'alcool de framboise, un tas de choses qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça a été compliqué. Justement, on a parlé tout à l'heure, est-ce que le champagne est un vin ? Eh bien, il y a eu un débat au 19e siècle pour savoir si le champagne était un vin fabriqué ou un vin naturel. Et donc, évidemment, le produit a beaucoup évolué. Et c'est vraiment un vin, évidemment. Mais c'était compliqué. Et donc, oui, au début, plutôt sur le dessert. Et puis, il y a eu une mode, encore une fois, qui vient d'Angleterre, où les Anglais boivent leur champagne quasiment sans liqueur de dosage. Et donc, évidemment, bah, ça fait évoluer la place du champagne dans le repas. Et donc, on va le prendre en plein repas, voire en apéritif, etc. Et on va vers des choses qui sont beaucoup plus brutes.
On dit aujourd'hui que le mois de décembre, c'est le mois pour le champagne. Alors, sans doute pour les producteurs que vous êtes, Delphine Brûlé, pour pouvoir vendre ces stocks et ces bouteilles. Est-ce que ça a toujours été le cas, Yves Tesson? Est-ce que le mois de décembre a toujours été le mois pour le champagne, hein, à tout point de vue?
Alors, là-dessus, ça fait très longtemps que c'est effectivement le mois où le destin des maisons se joue un peu. Voilà. Après, le champagne, qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi un vin de gastronomie qu'on va voir dans des grands restaurants, sur des repas, etc. C'est pas que le vin de la fête. Voilà, c'est aussi. Donc ça, je pense que même aujourd'hui, à mon avis, c'est quelque chose qui évolue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être moins le champagne de Noël, du Nouvel An, et plus un vrai vin qu'on va pouvoir déguster. Dans bien des occasions.
C'est un produit de fête, ça c'est sûr, mais c'est sans doute un produit de luxe qui est devenu accessible. On peut en trouver à 15€ dans certaines grandes surfaces. Je crois que vous ne vendez pas les champagnes Louise Brison dans les hypermarchés.
Absolument pas.
Delphine Brûlé, mais les grandes surfaces font des promotions en permanence. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'arriver à vendre des vins comme vous le faites, donc vos champagnes comme vous le faites, compte tenu de ces très bas prix qu'on trouve par ailleurs?
Alors, ces bas prix sur des marques assez connues font du tort à l'image du champagne. Ça, c'est indéniable. Maintenant, les politiques d'entreprise des supermarchés, on ne peut pas les dicter. C'est à nous, en fait, de prendre les devants. Alors, à nous, en tant que profession globale, de prendre les devants et d'essayer de s'en affranchir au maximum. C'est-à-dire d'être des bons pédagogues, de se déplacer beaucoup et de montrer aux gens qu'on peut consommer du champagne à travers d'autres biais que le supermarché. On est un peu...
Alors, c'est aussi le rôle des Fabuleuses, on y revient, de votre association.
Oui, tout à fait, c'est aussi le rôle des Fabuleuses. Donc dans les Fabuleuses, évidemment, personne ne va vendre dans des supermarchés non plus, parce qu'on a ces valeurs communes. Le champagne, malheureusement, en France, a connu ces dernières années une certaine désaffection de la part des consommateurs. Peut-être pour plusieurs facteurs, je pense en tout cas en analyser certains, notamment le vieillissement de la population, puisque c'était quand même des champagnes qu'on buvait le dimanche avec ses grands-parents, sur le repas, etc. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas forcément le réflexe d'aller acheter des champagnes. Donc, on aimerait vraiment que la classe des 25-45 ans reprenne la dimension du goût pour les champagnes et se mettent à reconsommer. L'économie et l'amorosité ambiante ne participent pas au fait de vouloir faire la fête. Donc probablement qu'on achète aussi moins de champagne à cause de ça, malheureusement. Alors si on peut parler de chiffres, notre classe de récoltants manipulants, ces 10 dernières années, on a perdu plus de 20 millions de bouteilles sur le marché français uniquement. Mais comme le disait Yves, on était une population, une profession qui vendions principalement sur le marché français. Donc quand ça a commencé à décliner, c'est les récoltants manipulants qui ont eu beaucoup de mal à remonter la pente.
Donc peut-être qu'il faut renouer avec l'esprit de fête, si tant est que ce soit possible, et de faire en sorte que le climat soit meilleur globalement.
Oui,
vous retrouviez le chemin de la vente.
Ça peut être effectivement une piste. La seconde piste aujourd'hui, qu'on la déplore ou pas, c'est plutôt l'exportation. Donc nous, on se met vraiment à devenir des globe-trotteurs et à aller faire la promotion de nos champagnes de vignerons partout sur la planète.
Restez avec nous, Delphine Brûlé et Yves Tesson, pour écouter une autre globe-trotteuse qui nous revient de voyage. Et qui néanmoins nous rapporte une cerise sur le gâteau. Alors vous êtes Camille Labro, de retour d'Afrique du Sud, et vous allez nous parler de pêcheurs.
Absolument. J'ai eu la chance d'aller récemment en reportage en Afrique du Sud, Caroline. Ce grand beau pays des Antipodes, dont le paysage, surtout dans la région du Cap, évoque plutôt les régions méditerranéennes que la Champagne, avec des vignes, des pins, des oliviers. Mais la mer, elle, est très différente, immense, froide et agitée. C'est là où l'océan Atlantique rejoint l'océan Indien et où souvent les baleines font halte pour se régaler de krill, ce plancton et de crevettes qui abondent et dont elles raffolent. Le pays compte près de 2800 km de côte et les eaux y sont bien plus pures et riches en vie marine que nos rivages européens. Et pourtant, la gastronomie sud-africaine ne compte quasiment que des spécialités carnées, viandardes. Je pense au biltong, le fameux bœuf séché, les curries, le boboti, sorte de flan parmentier, sans oublier le très populaire braai, autant dire barbecue. Mais nul plat aux saveurs marines. En réalité, même au Cap, qui est ouvert sur la mer, l'essentiel du poisson capturé par des pêcheries industrielles est exporté. Comme dans tout pays côtier, il existe pourtant une forte tradition de pêche artisanale, mais qui a été particulièrement fragilisée par des décennies de colonisation et d'apartheid, puis par des réformes post-apartheid favorisant les pêcheries commerciales de grande taille. Conséquence, la majorité des petits pêcheurs n'ont pas de permis de pêche pour pouvoir travailler légalement et nourrir leur famille. Quant aux restaurants sud-africains, c'est bien souvent du cabillaud et du saumon de Norvège que l'on trouve dans les assiettes. Mais ça, c'était avant Abalobi.
Abalobi.
Abalobi, oui. Ça signifie « petit pêcheur » en Xhosa, qui est l'un des principaux dialectes sud-africains. C'est un projet né dans la tête d'un chercheur en biologie marine qui s'appelle Serge Ramekers, il m'excusera pour la prononciation. Arrivé de Belgique il y a une quinzaine d'années, ce scientifique étudiait des ressources marines et les pêcheries locales quand il a rencontré Nico Waldeck, un sud-africain engagé auprès des ONG pour défendre les droits des petits pêcheurs de son pays. Les deux ont imaginé une manière de combiner science, tradition et technologie qui bénéficie à la fois aux communautés locales, aux ressources marines et aux restaurateurs et consommateurs en quête d'authenticité. Le résultat, une application mobile, oui, qui permet aux pêcheurs artisanaux de vendre directement leur capture du jour au restaurant sans intermédiaire. Les chefs, qui eux payent pour accéder à la plateforme Abalobi, reçoivent en direct les données des bateaux, accompagnés des profils des pêcheurs et informations sur les poissons que les marins veillent à ponctionner et sélectionner en fonction de l'état des stocks. Si ce sont des poissons que les chefs ne connaissent pas, les pêcheurs peuvent même suggérer des idées de recettes. Et Abalobi forme aussi les pêcheurs à l'usage de l'appli et les aide à obtenir leur permis, de sorte qu'ils soient enfin dignement rémunérés. Lancée en décembre 2017, l'appli Abalobi est aujourd'hui utilisée par près d'un millier de pêcheurs et 350 restaurateurs en Afrique du Sud. Ses fondateurs sont en lien avec le WWF, Slow Fish ou encore l'Alliance flamande des North Sea Chefs. Ils espèrent pouvoir essaimer leur modèle dans le monde entier. Et ça, je trouve que c'est une formidable idée pour préserver les communautés locales autant que les océans, tout en permettant de manger du très bon poisson durable.
C'était la chronique de Camille Labrault qu'on retrouvera bien évidemment sur notre site à la page des bonnes choses. Un grand merci à vous deux, Delphine Brûlé et Yves Tesson, d'être venus ce midi dans les bonnes choses de France Culture, qui se poursuivent bien sûr en réécoute et en podcast sur notre site franceculture.fr. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Roxane Poulain, Matteo Caranta, Anne Fleury et notre technicien du jour Théo Gomard vous souhaitent à tous un excellent dimanche à l'écoute de France Culture et on se retrouve l'année prochaine.